L'âge d'or des sciences arabes avec Algérie Télécom.
Algérie Télécom, le bon choix.
L'âge d'or des sciences arabes. Un voyage au pays des mille et une sciences pour découvrir les avancées scientifiques de l'une des périodes les plus fructueuses de l'humanité. Entre grands savants et découvertes étonnantes de modernité, plongez dans le monde fascinant de l'âge d'or des sciences arabes. Comptez par le professeur Ahmed Jabba.
Dans cet empire monde, la partie la plus à l'ouest de cet immense territoire est composée de deux régions, l'Espagne musulmane, conquise et soumise au pouvoir politique du Maghreb, et le Maghreb, qui va de la Libye au Maroc et qui compte en son sein la Sicile et la Sardaigne actuelles. Les deux régions se nourrissent l'une l'autre jusqu'à presque se confondre et leurs savoirs respectifs ont beaucoup alimenté les sciences arabes alors en plein essor, au point que le rayonnement scientifique atteint à des époques différentes des villes comme Béjaïa, véritable foyer scientifique autonome, mais aussi Kérouan, Cordoue, Marrakech, Tunis, Fès, Grenade, Tlemcen ou encore Taherte. Professeur Jabbar, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, dans cette belle saga sur l'âge d'or des sciences arabes, ce soir, on rentre à la maison.
Oui, tout à fait.
Alors, est-ce qu'il y avait une pratique scientifique ou un savoir scientifique au Maghreb et dans la péninsule ibérique avant l'arrivée des premiers cavaliers musulmans ?
Ah, ça, c'est une bonne question et c'est une question difficile. Pourquoi ? Parce que d'abord, les recherches ne sont pas très avancées. Et puis, les réponses peuvent très bien ne pas satisfaire les auditeurs. Mais malheureusement, c'est tout ce que nous savons. Nous savons que les deux régions se distinguent à ce niveau-là.
Elles sont totalement différentes.
Alors, elles se distinguent au niveau, évidemment, historique, elles se distinguent au niveau sociologique aussi, et puis elles se distinguent aussi au niveau de leur patrimoine propre. Il n'y avait pas un seul patrimoine qui était dans toute cette région-là. Les choses vont s'unifier plus tard, dans le cadre de la civilisation arabo-musulmane. Mais là, à l'arrivée des premiers cavaliers musulmans, c'est-à-dire vers 647, puis vers 711, la situation est la suivante. Au Maghreb, nous n'avons aucun témoignage d'historiens, que ce soit des historiens d'ailleurs romains, ou byzantins, ou arabes plus tard, disant qu'il y avait des écrits scientifiques dans la langue du pays, ou bien produits en latin, qui était la langue des occupants de l'époque, ou du grec, ou alors en amazigh et avec quel alphabet. Nous n'avons pas de témoignage. Nous savons qu'il y a eu des personnages très importants du Maghreb, comme Juba II, etc., d'autres qui n'étaient pas dans le pouvoir, comme Saint-Augustin de Annaba, qui ont écrit des choses, mais à notre connaissance, ils ne nous ont pas laissé d'écrits scientifiques en tant que tels, dans aucune langue. Par contre, l'inexistence de textes ne signifie pas qu'il n'y avait pas du savoir. Il y avait un savoir-faire. Et il y avait des connaissances de type scientifique. Est-ce qu'elles étaient enseignées ou non, on ne sait pas. Est-ce qu'elles étaient transmises par initiation, probablement. En tout cas, elles étaient dans la pratique quotidienne. Alors, on trouve des éléments de mathématiques dans la métrologie, tout ce qui est change de monnaie. Il y a aussi de la géométrie dans les pratiques artistiques. Et jusqu'à maintenant, dans les populations du Maghreb, qui ne sont pas nécessairement dans les villes, elles ont gardé de vieilles pratiques artistiques pour décorer leurs maisons. La vannerie, et qui contiennent des éléments de géométrie. Il y a aussi les pratiques artisanales. Et il y a tout simplement la numération. Et cette numération, elle est très très vieille, donc elle a été produite dans le cadre des transactions commerciales, des échanges, etc. etc. Ça, ce n'est pas spécifique à cette région. Pour l'Andalus, c'est un peu différent. En plus de ce que je viens de signaler pour le Maghreb, et qui n'a pas encore été étudié de manière vraiment scientifique. Ça s'étudie aujourd'hui dans le cadre d'une discipline qu'on appelle l'ethnoscience. Alors, en Andalus, lorsque les premiers conquérants musulmans, d'ailleurs majoritairement d'origine maghrébine, berbère, vont arriver au sud de la péninsule ibérique, ils vont trouver des écrits en latin et qui concernent un savoir scientifique. En tout cas, nous avons des témoignages très précis. Ils vont trouver des textes d'astrologie, ils vont trouver des informations sur une vision de la géographie, évidemment, qui était très, très, très élémentaire, naïve, mais qui existait quand même. Ils ont trouvé des encyclopédies, l'une des plus célèbres qui a été produite au 7e siècle par Isidore de Séville, s'appelle les étymologies. Elle contient donc un savoir dans tous les domaines, l'astronomie, mathématiques, botanique, médecine, etc. Ils ont trouvé aussi un petit livre d'Hippocrate, le grand médecin grec, qui s'appelle les aphorismes, et d'autres livres encore. D'ailleurs, nous avons un témoignage d'un intellectuel qui s'appelle Ibn Abd al-Barr, dans son livre qui s'appelle Le but et la foi, qui dit explicitement que le général musulman Tariq ibn Ziyad a récupéré dans le butin des ouvrages très précieux, des bibles, mais des livres aussi scientifiques, et il a envoyé tout ce butin au calife de l'époque, le calife Omeyyade, qui est le Walid Ier, qui a régné de 705 à 715 à peu près. Et donc ça confirme effectivement qu'il y avait un savoir, plus qu'un savoir-faire, et ce savoir était consigné dans des ouvrages. Alors vous allez me dire, mais est-ce que ce savoir méritait la peine d'être étudié? Est-ce qu'il allait être à la base du développement des sciences? Eh bien, je ne peux pas répondre d'une manière très
rigoureuse,
mais je peux dire en tout cas que les musulmans qui ont conquis la péninsule ibérique à ce moment-là, au 8e siècle, n'ont pas fait la fine bouche. Ils ont trouvé qu'il y avait quand même des éléments intéressants pour leur formation. En tout cas, malgré le niveau très faible, et ça, on saura plus tard que le niveau de ces connaissances était faible quand on va le comparer avec le savoir qui va être traduit du sanskrit, du persan, du grec. Mais pour le moment,
on va dire que c'était une base.
C'était une base, ils ne l'ont pas négligée, et elle va être à la base d'une première formation. Il faut le dire. Et donc, si vous voulez, ils ne sont pas arrivés dans un désert. Alors, donc ça, c'est le savoir et le savoir-faire qu'il y avait à l'avènement de l'islam dans ces régions.
Alors justement, puisque ce sont deux entités différentes au plan sociologique, politique, géographique et tout, où est-ce qu'a commencé le développement des sciences? D'abord au Maghreb ou d'abord en Andalous?
Pour répondre à votre question, il faut suivre strictement la chronologie. La conquête de l'Occident musulman commence par le Maghreb. Et donc on s'attend à ce que les premiers développements de cette civilisation se fassent au Maghreb. Et donc le premier foyer de l'islam, et le premier foyer aussi de la culture arabe, et le premier foyer de développement des premières activités scientifiques écrites en arabe, c'est Kairouan, la ville qui va être construite par les premiers musulmans et qui va devenir la capitale du Maghreb au 8e siècle, 9e siècle. Et donc, effectivement, les premiers éléments que l'on peut considérer ayant un lien avec les sciences, qui sont essentiellement le calcul, un peu de médecine, et puis la répartition des héritages, parce que ça utilise un peu de calcul, c'est à Kairouan que les premières publications apparaissent. Et il faut attendre un certain décalage pour que l'Espagne musulmane prenne le train en marche.
Alors, quels ont été les premiers pas des activités scientifiques dans le Maghreb oriental, donc toute cette région qui va de la Libye, de la Tunisie jusqu'au Maroc, si on peut situer géographiquement?
Ça va de Jebel Nefoussa, qui sont les montagnes là, qui limitent et qui sont en Libye, et qui distinguent précisément, aux yeux des géographes et des historiens, le Mashraq du Maghreb,
oui,
jusqu'à l'Atlantique, d'accord, mais en incluant la Sicile, et toutes les îles qui vont devenir sous occupation ou sous pouvoir politique musulman, la Sardaigne, les îles Minorque, Majorque et même la Corse à un certain moment. Alors, pour répondre à votre question, comment va se faire le développement scientifique au Maghreb et en Andalous, je pense qu'il est préférable de suivre, parce que le sujet est vaste en fait, de suivre la chronologie. Donc si vous voulez, on va prendre période par période et on va voir dans chaque période qu'est-ce qui s'est passé grosso modo, parce que je suis obligé de résumer de ce qui a existé dans cette région. Alors, on divise la période de développement des sciences dans l'Occident musulman en plusieurs phases, 5 ou 6. Et la première, c'est celle qui va de 647, donc l'année de la conquête, jusqu'à 756. On l'appelle la période des gouverneurs. Ce sont des gouverneurs qui sont choisis par le pouvoir central, c'est-à-dire essentiellement les premiers califes bien dirigés, et puis les Omeyyades essentiellement. Parce que les Omeyyades vont gouverner de 661 à 754. Donc cette période des gouverneurs, eh bien, on ne sait pas grand-chose sur ce qui s'est passé en science, que ce soit au Maghreb ou bien en Andalous. Il y avait sûrement le savoir pré-islamique que j'ai évoqué tout à l'heure qui va continuer à être pratiqué, à être utilisé. Nous savons quand même qu'en dehors des sciences, eh bien, il y avait, mais ça va vous paraître normal, par nécessité de la gestion de la société, le développement et l'enseignement du droit, le droit musulman, parce qu'il fallait bien organiser la société. Et puis, il fallait bien que la langue arabe devienne de plus en plus la langue officielle, et la langue de la pratique religieuse. Donc on va développer l'enseignement de la langue arabe, et donc aussi développement de tout ce qu'il y a à tout ça, donc la grammaire, la littérature, la poésie. Nous connaissons un peu de choses, mais comme ça sort de la science, je ne le développe pas. Donc voilà, dans cette période, ce qu'il en est.
Dire les balbutiements, donc pas encore.
Ce n'est même pas les balbutiements, pour une raison très simple d'ailleurs, parce qu'il faut dire que même en Orient, au centre de l'Empire, c'est-à-dire le cœur même de cette civilisation, eh bien, ce n'est pas encore les balbutiements. Les vrais balbutiments scientifiques, pas le reste, hein. Au centre de l'Empire, c'est précisément à partir de la fin de cette période omeyyade. et donc au début de la période abbasside avec Al-Mansour, qui commence en 754. C'est pas étonnant. Et donc, dans une deuxième phase, eh bien, le Maghreb et l'Espagne musulmane vont attendre qu'il y ait des développements au centre de l'Empire pour s'en nourrir et puis ensuite prendre le train en marche. C'est ce qui va se passer d'ailleurs. Donc ça, c'est la première période. La deuxième période, on l'appelle la période des Émirats, de 756 à 900. Pourquoi ? Parce que c'est une période d'éclatement. Et ça, ça montre quand même la spécificité de cette région. C'est-à-dire que très vite, cette région va essayer de s'autonomiser par rapport au pouvoir central musulman qui était d'abord à Damas, puis à Bagdad. La science va se développer dans un contexte politique très instable, à tel point que pendant 50 ans, l'Espagne musulmane n'était pas gouvernée d'une manière autonome. Elle était gouvernée à partir de Damas, mais d'une manière indirecte. Damas choisissait des gouverneurs de Kairouan, et c'est le pouvoir politique de Kairouan qui choisissait des gouverneurs en Espagne musulmane. L'Espagne musulmane était soumise au pouvoir politique du Maghreb. Et ça, on l'oublie. Et donc, dans cette période d'instabilité, de lutte politique,
de coups d'État en tout genre, de renversement...
Et puis surtout, d'antagonisme entre deux forces, qui, précisément, étaient les artisans de la constitution de ce nouveau pouvoir, au Maghreb et en Espagne. Bien, ce sont les communautés arabes qui étaient venues d'Orient, et les communautés berbères qui se sont enrôlées dans cette aventure de conquête et qui vont demander à gouverner, qui vont demander à partager le pouvoir. On en parle peu, mais 50 ans ou plus vont être caractérisés par ces luttes sourdes, de moins en moins sourdes d'ailleurs, qui vont éclater, et des volontés d'autonomisation, des volontés d'indépendance. D'où l'apparition de principautés qui vont s'autonomiser à la fois du pouvoir arabe, entre guillemets, de Kairouan, et du pouvoir central qui était entre les mains des familles arabes. Alors on les appelle les principautés. Elles étaient toutes petites, et il y en avait pratiquement une dizaine. Et évidemment, pour pouvoir survivre, il fallait qu'elles n'expriment pas leur indépendance idéologique, ou religieuse, ou ethnique. Et l'intelligence de ces hommes, ce sont des berbères, hein. C'est qu'ils vont prendre le pouvoir, partager le pouvoir, mais au nom de l'islam. Et même de plus en plus, ils vont la partager au nom de l'arabité. Il n'y a jamais eu remise en cause de ces chefs berbères qui, tout en remettant en cause le leadership arabe en politique, n'ont jamais remis en cause l'islam en tant que tel et l'arabité comme culture dominante, vecteur de l'expression politique.
Donc en fait, ils ont su s'accaparer ce qui était le pouvoir tout en gardant leur culture propre,
absolument.
Ce qu'ils étaient intrinsèquement dès le départ.
Absolument, c'est une forme d'appropriation, oui. Qui est un phénomène naturel d'ailleurs. Et donc, il va y avoir des principautés, qu'on appellera d'ailleurs principautés de type berbère, c'est-à-dire les dirigeants sont berbères, ou des principautés dirigées par des Arabes. Et au Maghreb, il y aura la principauté dirigée par les Arabes, c'est les Arlabides, et puis les principautés dirigées par les berbères, eh bien, c'est la principauté de Taher, par exemple, près de Tiaret, et qui sont des berbères, évidemment arabisés, musulmans, mais, pour se distinguer aussi, ceux de Kairouan étaient des orthodoxes, ceux de Taher étaient des Khalidites. Et alors donc, là, il va y avoir un début de phénomènes, d'apparitions, de publications et d'activités scientifiques, qui va profiter de l'antagonisme précisément de ces principautés. Alors par exemple, pour le Maghreb, on peut dire qu'il y a eu quatre foyers scientifiques. Celui de Kairouan, qui va être dominant bien sûr, parce que c'est la capitale. Celui de Abbasiyah, qui était une capitale royale à l'époque.
C'est dans quelle région ?
Toujours le Maghreb oriental. C'est ce qu'on appelle la Tunisie aujourd'hui. Il y a Raqqada aussi, qui n'est pas très loin au sud de la Tunisie aujourd'hui. Et il y a Taherte, la principauté de Taherte avec la capitale, etc. Nous avons un témoignage très intéressant de quelqu'un qui s'appelle Abu Zakaria, qui est un biographe, et qui parle d'un des imams, parce qu'on les appelait les imams, qui dirigeait la principauté de Taher. Et il s'appelle l'imam Aflah, et il dit l'imam Aflah avait atteint dans le calcul, Robar, et en astronomie, un niveau important. Ça veut dire que déjà, nous sommes au 9e siècle, des principautés vont commencer à être à l'image de la capitale Bagdad. Elles vont récupérer le savoir qui va commencer à se développer, les textes traduits du grec, du sanskrit, etc. Et elles vont constituer les premiers éléments de l'enseignement scientifique, de la production scientifique. Ce témoignage que je vous ai donné, on le trouve dans le livre sur les traditions des imams sur leur vie. C'est un livre qui existe, qui a été publié, donc on peut le retrouver. Toujours au Maghreb, eh bien, il y a dans la science du calcul, il y a Yahya al-Kharraz, il y a Ibn Yassin, il y a Abu Sa'd al-Qayrawani. Nous avons même un titre de son livre qui s'appelle « Le livre du calcul indien ». Ça montre d'ailleurs que le calcul indien, qui était une nouveauté pour les musulmans et qui venait de l'Inde, s'est diffusé d'abord dans le croissant fertile, passe par l'Égypte et il arrive au Maghreb. C'est très intéressant. Et nous sommes au 9e siècle. Développement de l'astronomie, alors on a des noms, c'est pas la peine de les citer tous. Je cite juste un prince quand même, il s'appelle Ibrahim II. Il était prince, il était roi, il a régné de 875 à 902, mais il était absolument amoureux de la science. Et il était passionné d'astronomie. Alors je ne sais pas s'il a perdu beaucoup de temps à faire de l'astronomie au lieu de gouverner, mais toujours est-il qu'il est présenté comme ça. Et puis il y a les deux grands médecins du Maghreb qui vont créer la tradition scientifique. D'ailleurs, tous les deux sont venus d'Orient. C'est Ishaq ibn Imran et Ishaq ibn Sulayman. Il faut bien voir que Ishaq ibn Imran, c'est quelqu'un qui a écrit des livres dont un au moins nous est parvenu. Il existe. Oui. C'est le livre sur la mélancolie. Il a écrit un livre spécialisé sur les maladies mentales. Dépression, schizophrénie, etc. Ça s'appelait d'une manière générale la mélancolie. Mélancholia. Ils ont pris d'ailleurs le nom grec. C'est un des rares livres sur la mélancolie. Il a été produit à Kérouan par ce grand médecin. Donc voilà pour le Maghreb. Pour l'Espagne musulmane, à la même époque, eh bien, l'Espagne musulmane n'est pas assez avancée. Alors qu'il y avait plus de villes moyennes qu'au Maghreb. Et là, on sent que c'est dû au fait que l'Espagne était encore instable politiquement, alors que le Maghreb s'était stabilisé depuis longtemps, depuis qu'Al-Kahina aurait dit à ses enfants d'arrêter de combattre les musulmans et que la partie était perdue. C'est ce qu'on raconte. Hein. Mais toujours est-il qu'il y a eu, disons, stabilisation beaucoup plus tôt. D'ailleurs, nous avons deux témoignages intéressants qui montrent que la situation n'est pas assez avancée en science en Andalous. C'est Ibn Juljul, des médecins, biographe du Xe siècle, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le livre des catégories des médecins », qui nous est parvenu. Hein. Je cite, « Jusqu'à l'époque du quatrième calife Omeyyad, Abdelrahman II, il a régné de 826 à 852, les sciences médicales, philosophiques et mathématiques n'avaient pas de représentants éminents. » C'est intéressant ça, témoignage direct. Hein. Et donc, nous sommes dans une période où la locomotive, c'est le Maghreb. Ça, les gens ne le savent pas. Même beaucoup de spécialistes ne le savent pas. Deuxième témoignage intéressant, qui confirme d'ailleurs, et qui montre que le démarrage se fait à un moment donné, c'est celui de Saïd al-Andalusi. Alors celui-là aussi est un scientifique.
Vous nous en avez parlé dans une précédente émission.
C'est un astronome.
Oui, effectivement.
Voilà. Il a écrit un livre qui a été publié en 1068. Il dit, à l'époque du cinquième prince Mohammed, qui a régné de 852 à 886, des personnes se sont activées à la recherche de la science. C'est pratiquement la seconde moitié du 9e siècle. Et jusque vers le milieu du 4e siècle de l'Égypte, c'est-à-dire vers le milieu du 10e siècle, il dit, il continuait à ne pas avoir une large audience. Or, si vous savez que les historiens ne parlent des événements que lorsque ce sont des événements très importants, ne parlent des hommes de science que lorsque ils apparaissent comme étant du même niveau que leurs collègues de l'Orient, comme le Khawarizmi, comme le Biruni, etc. Eh bien, le fait que les historiens ne nous parlent pas des savants de cette période-là, du 9e siècle, ça ne veut pas dire que la science n'existait pas. Ça veut dire que la science était dans sa phase
de maturation.
De constitution, de démarrage, et puis à un moment donné, certains savants vont percer et vont atteindre, comme on dit aujourd'hui, le niveau international. Voilà, mais c'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'il n'y a pas de science. Il n'y a pas encore le niveau international. Par contre, il y a quelque chose qui est absolument indispensable pour qu'il y ait ce niveau international, c'est qu'il faut que la science, et c'est ce qui s'est passé au Maghreb et en Espagne, ne soit pas une science isolée. On pouvait concevoir, après tout, que pour concurrencer l'Orient, eh bien, on va commencer à développer la science, mais à partir de ce qu'on a trouvé en Espagne musulmane. Malheureusement, je vous l'ai dit, ce qu'on a trouvé en l'espace musulman, c'était tellement pauvre qu'on ne pouvait pas aller loin. Ils ont dû essayer. Par contre, lorsque la production riche, multiforme, d'abord des traductions, puis des premiers ouvrages originaux, comme ceux de l'algèbre, de Khawarizmi, vont arriver au Maghreb et en Espagne, et comment ils vont arriver? Ils vont arriver parce que les gens soit vont directement en Orient les acheter, soit parce qu'il y a les marchands et les voyageurs, etc.
Les caravansérails qui les ramènent.
À ce moment-là, le phénomène va se développer. Et dans ce phénomène-là, le rôle des voyages scientifiques ont été importants. Les rihla, comme on dit. Rihla scientifiques ont été très importants. Et nous avons des témoignages de gens qui étaient envoyés par des princes, ou des gens riches, même des gens qui ne pouvaient pas voyager, mais qui donnaient de l'argent à des marchands qui leur disaient « Nous avons entendu parler de tel et tel livre, s'il te plaît, quand tu arrives à Bagdad, et même quand tu vas à la Mecque, quand tu finis le pèlerinage, passe par Fostat, parce qu'il n'y avait pas le Caire encore, passe par Fostat, passe par Damas si c'est pas trop loin, et puis achète-moi tel livre, tel livre, tel livre, tel livre. » Ils avaient les références. Nous avons même des noms de voyageurs qui ont été envoyés par les princes, comme Abbas ibn Nasih, qui sont allés avec une somme déterminée, avec une liste, et qui leur ont dit « Allez nous chercher les livres qui vont être à la base de la tradition scientifique andalouse. »
J'espère qu'on ne les a pas détroussés en chemin.
Non.
Ah bon, c'est rassurant. A émergé plus que les autres régions du Maghreb à cette époque.
D'abord parce que Kérouan a été, dès le départ, la capitale religieuse, culturelle, idéologique et politique. Ensuite, parce que nous pensons que le Maghreb n'avait pas, dans sa démographie, atteint un niveau suffisant de différenciation sociale et donc de citadinisation. C'est-à-dire qu'il y a eu une ville, ensuite il y a eu une deuxième ville, toujours d'ailleurs en Orient.
C'est-à-dire que c'était une région qui n'était pas assez peuplée.
Elle était peuplée, mais les villes n'étaient pas importantes. C'était des petits villages.
D'accord, des bourgades, voilà. Plus que des cités.
Et donc, la vie citadine n'était pas très développée. Oui. C'était des régions essentiellement agraires, des régions de nomadisme au sud. Et c'est une des explications des historiens. Pourquoi ? Lorsque l'Espagne musulmane va démarrer, elle va démarrer très très vite. Et elle va démarrer dans toutes les régions. Il y avait déjà des villes. Il y avait des traditions aussi. Il ne suffit pas qu'il y ait des villes. Il faut qu'il y ait des traditions d'enseignement. Même si l'enseignement est d'un niveau bas, le fait qu'il y ait des petites institutions, qu'il y ait eu des traditions d'enseignement, qu'il y ait eu quelques ouvrages qui traînaient par-ci par-là, eh bien, ça va permettre de faire redémarrer une activité qui était en hibernation.
Le terreau était là.
Voilà, l'élément minimal. On constate que dès que l'Andalus va démarrer, c'est-à-dire au 9e siècle, eh bien, on va voir apparaître un peu partout, pas seulement à Cordoue, des velléités de développement des sciences.
Là, vous avez développé chronologiquement les différentes phases. La troisième, je suppose que c'est celle à la fois de la maturation et celle du développement des activités scientifiques au Maghreb et en Andalous.
Tout à fait, c'est la phase qui correspond à peu près au 10e siècle. Le 10e siècle va être ce qu'on appelle la période du double califat. Il va y avoir un phénomène très très important politique et idéologique. Et ça vous montre d'ailleurs ce que je disais au début, cette volonté farouche d'être autonome par rapport au pouvoir central qui a existé dans l'Occident musulman. Eh bien, les pouvoirs de l'Espagne musulmane et du Maghreb, chacun indépendamment, et d'ailleurs chacun en concurrence avec l'autre, vont décréter ne pas reconnaître le califat de Bagdad. C'était une hérésie, pratiquement. Mieux que ça, ils vont chacun fonder un califat. Il va y avoir trois califats. Le califat de Cordoue, créé par Abd al-Rahman III, le califat des Fatimides, créé au Maghreb, grâce à une force politique, une force militaire qui va permettre justement de pérenniser cette décision politique qui pouvait paraître farfelue, surtout que les Fatimides n'étaient même pas orthodoxes, parce qu'à Cordoue, ils étaient orthodoxes. Eh bien, les Fatimides vont se reposer sur une population importante qui était les tribus de Koutama, de la petite Kabylie, et qui vont être vraiment la force vive qui va construire, qui va concrétiser ce projet de califat. Et donc, les sciences vont se développer dans le cadre cet antagonisme et de cette concurrence, triple concurrence, entre trois califats.
Donc l'émulation a dû être extraordinaire. C'était à qui aurait le plus de savoir, de savoir-faire, ramènerait le maximum de contributions, de traductions.
C'est exactement ce qui s'est passé. On pourrait penser que ça allait tellement perturber l'espace social. Au contraire, ça va stimuler et chacun va essayer de montrer qu'il est capable de développer tous les aspects de la civilisation, aussi bien, sinon mieux, que le califat de Bagdad. Oui. Et c'est ce qui s'est passé, effectivement. C'est pas par hasard qu'au Maghreb, il y a eu de grands califes, je voudrais en citer un, qui s'appelle Al-Mu'izz, calife fatimide. Je le cite parce qu'on n'enseigne pas sa vie dans les écoles, au Maghreb, parce que maintenant c'est l'orthodoxie qui domine, et tout ce qui est fatimide, ils sont des pistiférés. Mais nous, on est historien des sciences, donc on étudie la civilisation. Alors, Al-Mu'izz, il a régné de 953 à 975, c'est lui d'ailleurs qui va conquérir l'Égypte, parce que les fatimides vont fonder le Caire en 973. Et alors ce monsieur, non seulement il va continuer à développer les sciences qui avaient été développées par ses prédécesseurs, qui étaient ses ennemis idéologiques, les orthodoxes, les arlabites. Eh bien, il va le développer, mais lui-même va être un acteur de la science. Et nous avons un témoignage sur ce qu'il a fait. Il y a d'abord une phrase qu'il aurait dite à un de ses conseillers importants, qui nous rapporte évidemment cette information. Ce conseiller, c'est un biographe, un pari, qui a écrit la vie d'Al-Mu'izz. Al-Mu'izz aurait dit « Si Dieu ne m'avait pas fait obligation de m'occuper des affaires du monde, j'aurais refusé pour la délectation de la science » et de l'étude de ses livres. Plus que cela, il était tellement passionné par la philosophie, par les sciences, et par l'innovation, on nous raconte que lui-même est l'inventeur de quelque chose de fantastique.
Et qui est ?
Qui est le stylo à cartouche.
C'est pas vrai.
Alors, nous avons le témoignage, je n'invente pas.
Racontez-nous ça.
Alors, ce témoignage nous vient toujours de ce biographe. Le biographe nous raconte que, un jour, le calife Al-Mu'izz, il l'appelle, et il dit, j'ai une idée, j'ai conçu dans ma tête un stylo qui soit autonome et qui soit indépendant de l'encrier. Et il dit, je cite maintenant, « On pourrait écrire sans le tremper dans un encrier et dont l'encre serait en lui. Et ce serait un instrument merveilleux pour lequel personne ne nous aurait précédé. » Son biographe raconte quand même qu'il a donné instruction à des artisans spécialistes pour réaliser le stylo. Il a été réalisé. Le biographe raconte qu'on lui a ramené le premier modèle, qu'il l'a utilisé, il y a trouvé des défauts. Donc il a corrigé les défauts et il a rendu à l'artisan pour qu'il lui ramène un stylo convenable. Et la dernière mouture, la dernière version du stylo, eh bien, il l'a fabriqué en or et le stylo a fonctionné. Al-Mu'izz a utilisé le premier dans l'histoire de l'humanité, le premier stylo à cartouche.
Il est où ce stylo aujourd'hui?
Ah ouais.
Il s'est perdu, dommage.
Quel dommage. Alors pour être plus sérieux...
Ah mais c'est sérieux ça,
oui.
Le premier stylo à cartouche en or en plus.
Donc à son époque et pendant tout ce 10e siècle, il y a eu vraiment le développement de ce qu'on appelle l'école de médecine de Kairouan, avec en particulier Ebeljazar, qui est un très grand médecin qui nous a laissé beaucoup de livres. Certains de ses livres vont être traduits au XIe siècle en latin par Constantin l'Africain. Il y a eu des mathématiciens comme Al-Utaqi, comme Ibn Kilis, comme Al-Hawari. Il y a eu une institution même qu'on appelle Beit al-Hikma, à l'image de la maison de la sagesse de Bardane, qui aurait été donc créée avant les Fatimides, mais les Fatimides ne l'auraient pas détruite. Donc c'est une institution scientifique où les savants se réunissaient. Nous n'avons pas beaucoup d'informations sur elle. Certains historiens sont sceptiques sur l'existence de cette maison de la sagesse, mais pour le moment, on est obligé d'accepter les informations qui nous sont rapportées. Donc ça, c'est pour ce qui se passait au Maghreb. Et pour l'Espagne, alors là, le démarrage est absolument fulgurant. On commence, d'après les témoignages de Saïd Andalousi, à développer les sciences et à publier. Et nous avons des témoignages des mathématiciens, des astronomes, de grands médecins, des spécialistes des héritages qui vont écrire des livres. Nous avons les titres des ouvrages et certains des ouvrages ou certains extraits de ces ouvrages nous sont même parvenus. On voit très vite que l'Espagne musulmane va atteindre le niveau du Maghreb, qui l'a nourri au départ. On raconte même qu'à un moment donné, ce sont des intellectuels de l'Espagne musulmane qui allaient dans les villes du Maghreb, à Kairouan en particulier, pour récupérer des manuscrits pour pouvoir les étudier. Et les choses vont s'inverser à partir du XIe siècle. Donc l'Espagne va aller beaucoup plus vite. Est-ce que c'est dû aux structures démographiques? Est-ce que c'est dû aux structures des villes, du développement des villes? Est-ce que c'est dû au cosmopolitisme beaucoup plus grand? Nous n'avons pas la réponse. Mais le fait est là, c'est qu'à partir du XIe siècle, le XIe siècle c'est le grand siècle de l'Espagne musulmane, eh bien, il y a une nette avance de la production scientifique, de son originalité, par rapport à ce qui est au Maghreb. Mais le Maghreb reste aussi un foyer scientifique, attention.
On l'avait bien compris, notamment avec Kairouan et Taher. Alors, si vous permettez, on ne va pas faire du nombrilisme, mais on va s'occuper de certaines villes d'Algérie. Donc, on a vu qu'il y avait Taher. Moi, j'ai entendu beaucoup parler de Béjaïa. Alors, est-ce qu'il y a des scientifiques de cette région du Maghreb qui seraient aujourd'hui l'Algérie, qui ont contribué dans l'enseignement, la production et la diffusion des sciences? Est-ce qu'on peut circonscrire aux limites de notre pays? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est possible?
Alors, d'abord, il ne faut jamais limiter l'activité scientifique de cette époque à une région.
Parce que c'était une seule et immense région qui allait, vous
absolument
l'avez dit, de la Libye à l'Atlantique.
Pour le Maghreb. Et puis le Maghreb et l'Espagne étaient un espace ouvert. Ce n'est pas contradictoire de dire qu'une ville a produit des scientifiques sans qu'on ait des informations sur, par exemple, le fait qu'il y ait des activités scientifiques dans cette ville très importante. Pourquoi? Parce qu'une ville peut très bien avoir des institutions pour former les scientifiques en herbe, donc un enseignement de type primaire, un enseignement supérieur un peu léger. Et puis, cette ville, eh bien, elle forme des gens qui sont des sortes de pépinières pour les autres foyers scientifiques. C'est ce qui est arrivé pour les premières villes du Maghreb, sauf Kairouan. Et lorsque l'Espagne va prendre de l'avance au XIe siècle, eh bien on va voir un certain nombre important quand même de jeunes diplômés formés à Kairouan, formés à Tunis, formés à Béjaïa, formés à Tlemcen, formés à Fès, aller vers le nord. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu parler de grands professeurs, donc de renommée internationale.
Voilà, de ce bouillonnement scientifico-culturel, et donc ils voulaient en profiter.
Donc ça ne veut pas dire que le Maghreb ne produit pas de scientifiques, mais ça veut dire qu'il alimente les foyers scientifiques. Mais le Maghreb continue, par exemple, à attirer des Andalous, à attirer même des Orientaux, pour des spécialités bien déterminées, comme par exemple le droit. Kairouan reste la capitale du droit musulman, orthodoxe en particulier. Donc c'est une sorte de spécialisation, ça va créer une dynamique qui va du Maghreb vers l'Espagne au XIe siècle. Et puis les choses vont s'inverser encore au XIIe siècle. Alors pour prendre l'exemple de Bougie, Béjaïa va alimenter des villes de l'Espagne musulmane jusqu'au XIIe siècle. Et puis, au XIIe siècle, et là nous entrons dans une phase nouvelle du Maghreb avec l'avènement des Almohades, Béjaïa va réussir à atteindre un seuil critique dans l'activité scientifique à tel point que ça va devenir un foyer scientifique autonome. Il va capter à la fois ses jeunes diplômés, mais il va même attirer des diplômés qui viennent d'ailleurs. Ce sont des phénomènes civilisationnels. Et comme l'Empire est immense et que le Maghreb est immense, eh bien, à chaque époque, une ville ou deux villes deviennent plus prépondérantes par rapport à d'autres.
Oui, émergent.
Voilà, on dira donc le 9e siècle, c'est Kairouan. Le 10e, c'est encore Kairouan. Le 11e, c'est Cordoue. Le 12e, c'est Bougie et Marrakech. Le 13e, c'est Marrakech encore et Bougie. Tunis. Et puis le 14e, c'est Tlemcen, c'est Fès et Grenade. Parce que nous avons les informations sur ces époques-là, où on voit que ce sont telle et telle ville qui ont le leadership. Béjaïa parle. Eh bien, on peut donner des noms. À l'époque almohade, c'est quand même un bougiote qui va être nommé directeur du premier grand hôpital construit par les Almohades à Marrakech, dans la capitale du Maghreb. Et donc, on ne prend pas quelqu'un de Marrakech, on ne prend pas quelqu'un de l'Espagne musulmane, on prend quelqu'un de Béjaïa. À la même époque, un médecin qui s'appelle Ibn Nebbesh, nous savons qu'il est d'origine de Béjaïa. Mais il a été attiré par la ville de Murcie, qui est une ville superbe que j'ai visitée cette année, et bien attiré par le prince. C'est aussi donnant-donnant, hein. Ceux qui payent plus, ils attirent, parce que c'est un même espace, absolument. Donc il se retrouve grand médecin à Murcie. Il y a quelqu'un qui s'appelle El-Bedjaï, comme son nom l'indique, de Béjaïa. C'était un grand juge, Azil Rodrat, à Béjaïa. Il avait une formation philosophique, et donc scientifique automatiquement à cette époque-là. Pourquoi on en parle? Parce qu'il y a beaucoup de savants dont on ne parle même pas, parce qu'ils ont vécu une vie normale. Il s'est passé quelque chose dans sa vie. Il a été exilé par le calife al-Mansour al-Mu'adh, parce qu'il était un disciple du grand philosophe Ibn Rushd. Et lorsque le calife al-Mu'adh a exilé Ibn Rushd, pour quelques mois d'ailleurs, dans la région de Cordoue, sous la pression de certains théologiens conservateurs, pour avoir la paix, eh bien, il ne s'est pas contenté d'exiler Ibn Rushd. Il a exilé aussi Maïmonide, d'ailleurs. Il a exilé les disciples. Et ce pauvre monsieur-là, qui était tranquille à Béjaïa, en train de cultiver son jardin et sa philosophie, il s'est retrouvé en exil. Oui, mais il a été relâché quelques mois après. Hein.
Tant mieux pour lui.
Et c'est comme ça qu'on l'a connu. Donc voilà un grand esprit. Malheureusement, bon, il a sûrement écrit des choses, mais ils ne sont pas parvenus. Et enfin, un dernier exemple. Pour Béjaïa, c'est quand même l'une des rares villes qui a accueilli ce qui va devenir le plus grand mathématicien de l'Europe médiévale.
Fibonacci.
Voilà. Alors, il s'appelle Fibonacci, bien sûr. Son prénom, c'est Leonardo Pisano. Comme son nom l'indique, il vient de Pise. Eh bien, ça, nous connaissons son histoire. Hein. Il arrive très jeune à Béjaïa, et là, il le dit lui-même dans l'introduction de son livre, le Liber Abaci, il a été formé, du moins sa première formation mathématique, à Béjaïa, chez un professeur de mathématiques, qui était aussi un commerçant. Et puis après, il s'est perfectionné en Orient. Et donc, pour que Béjaïa reçoive quelqu'un comme ça, et qu'il soit formé, ça veut dire qu'il y avait des traditions de formation scientifique qui existaient depuis un certain temps quand même.
Donc il y a eu un bon foisonnement au Maghreb, qui ensuite s'est enrichi, mais ensuite a pu être exporté vers d'autres régions, que ce soit dans l'Andalous, ou donc du côté plus oriental de cet empire monde, et qui fait que chacun a pu s'enrichir des activités scientifiques les uns des autres, et permettre à la science d'avancer.
Parce que la science n'a pas de frontières.
Oui.
Et parce que la science, elle a dans sa pratique, dans son contenu, dans ses démarches, dans ses relations même, entre savants, elle a une dimension universaliste, et qui n'est pas limitée par les cloisonnements que fabriquent et que pérennisent les cultures. Les cultures, elles enferment d'une certaine manière, ou elles distinguent, elles font des clivages. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard que, dans cette période-là, la période des Almohades, qui va de 1073 à 1276, donc la période de l'Empire almoravide et l'Empire almohade, où là, pour la première fois, sur le plan politique cette fois, tout l'Occident musulman est unifié. Et d'ailleurs, vous remarquerez quelque chose de très intéressant, c'est que l'Occident musulman ne va être unifié qu'au XIIe siècle sur le plan politique, alors qu'en fait, et heureusement pour lui, il était déjà unifié par deux phénomènes aussi importants, plus importants encore, qui sont l'unification économique par un immense espace commercial de l'Occident musulman.
C'était l'humain avant l'heure?
Bien sûr, qui contrôlait toute la Méditerranée occidentale, avec toutes les îles, etc. Contrôlait indirectement même les ports de l'Europe du Sud, indirectement. Et puis, deuxième élément d'unification, c'est la pratique scientifique. C'est ça qui est très important. Parce qu'on faisait à peu près de la même science dans tout l'Occident musulman, à peu près au même niveau. Et donc ça, c'est la période des califats almoravides et almohades. Mais c'est aussi la période, précisément, par la puissance de cette région, par son leadership, pas seulement en économie et en politique, mais en science, parce que ça ne se décrète pas, c'est le travail, eh bien, l'Europe va commencer à s'intéresser à cette région. Mais ce n'est pas l'Europe militaire qui, elle, va s'intéresser à cette région par les croisades qui ont déjà commencé, mais c'est l'Europe civile. L'Europe de ces groupes sociaux nouveaux qui vont se former dans les petites villes qu'on appellera les bourgs en Europe et qui vont sentir la nécessité d'apprendre la science qui n'existait pas chez eux. Et elle était où? Ben, la région la plus proche, c'est l'Espagne musulmane et c'est le Maghreb. Et là, la communauté juive a joué un grand rôle. Parce que la communauté juive, elle était éclatée. Il y avait une communauté juive dans le midi de la France, à Orange, à Montpellier, à Narbonne, et une communauté juive en Espagne musulmane, dont une partie faisait partie de l'élite, hein. Nous avons des preuves, hein. Certains étaient des premiers ministres, d'autres de grands savants, d'autres des chefs militaires, d'autres ministres de l'intérieur, nous avons des noms. Et puis, il y avait aussi des groupes sociaux juifs du Maghreb au Maghreb, à Kérouan, à Tlemcen, à Fès, etc., puis à Marrakech. Et ces communautés juives, pour des raisons religieuses et culturelles, avaient des relations constantes. Plus des relations commerciales. Ils vont jouer le rôle de vecteurs. Ils vont être rejoints par des groupes de jeunes qui, eux, étaient des chrétiens, qui s'exprimaient en latin. C'est comme ça que le XIIe siècle aussi va donner la possibilité au Maghreb et à l'Espagne musulmane de nourrir l'Europe. Alors ça étonne beaucoup quand je le dis en Europe, je fais beaucoup de conférences, et je dis, c'est le Maghreb et l'Espagne musulmane qui va mettre à la disposition de ces nouvelles couches sociales en Europe qui en avaient besoin, le savoir qui avait été produit d'abord par les Grecs, traduit en arabe, puis produit en Orient, puis produit au Maghreb et en Espagne. Je corrige le terme, en fait, ils ne vont pas mettre à la disposition des Européens cette richesse, ce trésor. Pour dire la vérité, c'est qu'ils n'en ont jamais eu l'intention et ils n'y ont jamais pensé parce qu'ils considéraient que l'Europe n'était pas assez développée pour pouvoir consommer ces sciences. Et surtout, comme on était dans les croisades, certains intellectuels avaient peur que si les Européens assimiler les sciences qui étaient produites au Maghreb et en Espagne, il deviendrait encore plus fort et il viendrait occuper le Maghreb.
L'histoire de ces retournements...
Ben oui, oui. Mais c'est comme ça.
Est-ce qu'il y a eu des mécènes, on va dire des hommes politiques importants au Maghreb et en Andalousie, qui ont soutenu et financé les sciences, puisqu'on a vu que ça s'était passé justement en Orient?
J'ai déjà évoqué longuement le fameux calife Fatimid al-Mu'izz.
Oui.
Bien avant lui, il y a eu aussi Ibrahim II, donc avant lui, qui est un arlabide. Bien avant, des princes de la dynastie arlabide ont été des mécènes. Il y a eu des mécènes inconnus, anonymes, mais nous le savons, parce que les biographes en parlent, qui ont financé des madrasas. Il y a eu à l'époque almohade les grands califes, en particulier Abu Yaqub Yusuf, Abu Yusuf Yaqub et Mohammed al-Nasir al-Dinillah, trois grands califes qui vont financer des institutions d'enseignement, soit des madrasas style université, soit des hôpitaux. On a même des descriptions d'institutions qui ont été construites, mais qui étaient aussi des objets d'art fantastiques. Les lieux d'enseignement étaient considérés aussi comme des lieux de vie et des lieux où devait s'exprimer l'art musulman. Ça, c'est très important. Ce n'était pas uniquement des styles de baraquements, des préfabriqués comme aujourd'hui, ou bien du béton, comme ça a été construit.
Malheureusement, oui.
Non, non, c'était des réalisations esthétiques. Pour l'Espagne musulmane, et on peut citer, au Xe siècle, deux grands califes. Abdelrahman III, qui a régné de 912 à 961. Il a régné très longuement. Et il y en a un qui a battu le record, qui était le roi de Saragosse, qui est le père du grand mathématicien que j'ai évoqué dans une émission.
Al-Mu'tamen,
qui s'appelle Al-Muqtadir, qui lui a régné plus de 50 ans, et qui était aussi un grand mécène et un philosophe. Mais on ne connaît pas bien sa vie. Par contre, Abdelrahman III, bien nous savons qu'il a financé, à fond perdu comme on dit, financé à la fois des missions de recherche de manuscrits, à la fois la copie de manuscrits, parce qu'il faut tout faire. Il faut payer les voyages, il faut payer les manuscrits, et payer ensuite les copies pour les mettre à la disposition des chercheurs qui, eux, n'ont pas les moyens.
Mm-hmm.
Vous savez, le livre Ibn Sina qui fait 600 pages, puis il y a des livres qui ont des milliers de pages, parce que c'est plusieurs volumes. Et donc, il s'était copié quand même, et ça, c'est avec l'argent du prince, du calife. Il y a aussi son fils. Alors ce monsieur, il est très sympathique, c'est l'Hakam II. Il a régné de 961 à 976, 15 ans seulement. Toute sa vie, il a attendu d'être calife le pauvre, et comme son père a régné 50 ans, donc il s'ennuyait. Un peu comme Al-Mu'tamen qui s'ennuyait,
oui,
sauf
oui.
Que Al-Hakam était beaucoup plus riche qu'Al-Mu'tamen. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il s'est occupé de réaliser une bibliothèque. Alors paraît-il, c'était la plus grande bibliothèque de l'Espagne. Mais enfin, même sans exagérer, c'était vraiment une très grande bibliothèque, et surtout une bibliothèque très très rare, dont le contenu était d'une richesse absolument incroyable. Et donc, il l'a financé, et surtout, il a aidé les savants. Et c'est lui, voilà pourquoi il m'est sympathique aussi, c'est lui qui a repéré, parmi les hommes de science, deux femmes. Une qui s'appelle Lubna, qui est devenue une scientifique. Malheureusement, aucun de ses textes ne nous est parvenu, aucun livre. On ne sait pas si elle a écrit, si elle a publié. En tout cas, elle a sûrement enseigné. Et puis surtout, un jour, il a remarqué qu'une de ses servantes, qui était sûrement charmante, elle était intelligente. Elle était intelligente pour les sciences. Elle avait des aptitudes scientifiques. Alors qu'est-ce qu'il fait, le calife? Il lui paye des cours particuliers. C'est joli.
Ah, c'est magnifique.
Et ce n'était pas nécessairement sa maîtresse, hein, comme on dit. Jariyat al-Hamam, on l'appelle comme ça d'ailleurs. Hein. C'était peut-être sa secrétaire. Et bien, il lui a payé des cours d'astronomie, de mathématiques, etc. Et elle a montré qu'elle était vraiment au-dessus du lot. Malheureusement, elle aussi. Nous ne savons pas si elle a publié des livres. Et en tout cas, aucun de ses livres ne nous est parvenu. Et donc voilà, ce sont de beaux exemples, mais ce sont des arbres qui cachent la forêt. Parce qu'il y a eu des califes omeyyades mécènes. Soit en finançant des bibliothèques, soit en finançant des copies de manuscrits, ou la recherche de manuscrits. Ensuite, il y a les califes Al-Mansour, son fils, son petit-fils, son arrière-petit-fils. Et peut-être qu'on en reparlera encore dans le futur, parce qu'il y a des choses très très intéressantes. Il y a le calife Al-Hakim bi-Amrillah, qui est le calife égyptien, Fatimide, après le Mu'izz, qui a régné très très jeune, à partir de l'âge de 11 ans. Et c'est lui qui a financé toute la recherche scientifique d'Ibn al-Haytham, l'un des plus grands spécialistes de physique de toute l'histoire de l'humanité jusqu'au XVIIe siècle, je l'ai déjà dit. En fait, c'est une tradition culturelle qui s'est développée à partir de la période omeyyade et qui est devenue une dimension presque liée au pouvoir. C'est-à-dire un pouvoir qui n'honore pas les savants, un pouvoir qui ne laisse pas une partie de son argent pour le savoir, pour la science, pour la pérennité, eh bien, ce pouvoir musulman, il lui manquait quelque chose. Et ça, il ne le faisait pas par calcul, parce qu'il n'y avait pas de retombée automatique. C'était une dimension, c'est-à-dire la bonne gouvernance. Dans la bonne gouvernance, il n'y a pas seulement comment importer du blé ou du lait pour la population, comment faire pour qu'il n'y ait pas de manifestation, c'est aussi comment développer les sciences, parce que la science était, la science et la culture, était une dimension du bien-être des sujets de ces califes.
Alors moi j'aimerais dire une chose, Hakam aussi, mais très sympathique. pour ce qu'il a fait pour Loubna et pour sa fameuse servante. Et au fait, il y a des vestiges de cette fameuse grande bibliothèque ?
Non, malheureusement, non.
Dommage.
Non.
En tout cas, notre voyage ce soir s'arrête ici concernant justement les sciences au Maghreb et en Andalousie. Alors, la semaine prochaine, on va revenir sur un sujet qui m'a passionnée. On avait parlé d'agronomie et de mécanique à un moment donné. Alors, cette fois-ci, on va parler d'art culinaire. C'est une émission pour tout le monde, mais c'est d'abord une émission pour les dames, comme ça elles pourront faire ensuite goûter aux messieurs. Parce que c'est comme ça, malheureusement, que ça se passe. Hein.
Surtout que les livres qui ont été écrits sur l'art culinaire ont été écrits par les hommes.
En plus, il y aura des recettes ?
Absolument, j'apporterai des recettes.
Super. On aura tous un super dîner la semaine prochaine. Alors, vous préparez le crayon, le papier, le carnet, ce que vous voulez. Il y aura les recettes du professeur Djebar. Il y aura le professeur Djebar pour l'art culinaire. Bonne semaine à tous et puis à vendredi 18h15.
C'était l'âge d'or des sciences arabes, raconté par le professeur Ahmed Djebar. Présentation Dalila Smaril. Collaboration Samira Chouadria. Réalisation Hafid Fouhar.
L'âge d'or des sciences arabes avec Algérie Télécom.
Algérie Télécom, le bon choix.